Monsieur Jean-Benoît, vous êtes directeur du Centre de recherche Caraïbes de Fort Saint-Jacques.
De Fort Saint-Jacques, oui, à la Martinique. En fait, c'est à l'Université de Montréal et nous avons à la Martinique une base de recherche qui nous permet d'accueillir des chercheurs qui travaillent sur les Antilles ou des chercheurs antillais qui veulent se rencontrer avec des chercheurs canadiens.
Et ce Centre de recherche Caraïbes, jusqu'à présent, a livré au public quelques fruits de ses recherches. Par exemple, des travaux sur le système de plantation aux Antilles françaises, entre autres, ce sont celles que j'ai eues sous les yeux. Mais quel est l'objectif de ce centre de recherche Caraïbes?
Oh, son objectif est double. Il y a un objectif propre à l'Université de Montréal, c'est-à-dire que disposant d'un assez large potentiel humain sur le plan intellectuel, l'Université de Montréal s'intéresse nécessairement à d'autres régions du monde qu'au Canada. Elle s'intéresse au milieu tropical dans le domaine des sciences biologiques particulièrement. Elle s'intéresse aussi à l'univers de langue française en Amérique, puisque le Québec n'est pas seul dans ce domaine. Et ça a entraîné des relations privilégiées entre le monde antillais de langue française et le monde canadien ou québécois, si bien que nous organisons des programmes de recherche qui sont en même temps des programmes de formation conjointe d'étudiants québécois, français et antillais, des stages ou des cours à Montréal sur l'ère culturelle antillaise. C'est-à-dire que nous avons bâti sur le domaine antillais un peu l'équivalent de ce que sont dans d'autres universités un centre de civilisation espagnole ou française ou allemande, comme il en existe à peu près dans toutes les universités du monde, mais nous, nous l'avons surtout tourné vers le monde antillais.
Centre de recherche Caraïbes, mais j'ai l'impression que les travaux d'ethnologie sont au centre de vos préoccupations.
Elles ont été au centre, elles ont été exactement au départ, car la discipline que représente l'ethnologie a, comme toutes les disciplines finalement, choisi ses interlocuteurs. Un spécialiste de la littérature va évidemment s'entretenir avec les écrivains qui sont l'émanation de l'élite culturelle ou économique d'un pays. Un spécialiste de sciences économiques va s'adresser aux hommes d'affaires et au pouvoir. L'anthropologue a tendance beaucoup plus, ou l'ethnologue, à s'adresser à la masse de la population et par ce fait même à créer avec une société un type de relation beaucoup plus intime, beaucoup plus intense que lorsqu'il s'adresse exclusivement aux élites, au pouvoir. C'est bien que, en travaillant à travers, en partant de l'anthropologie, nous avons pu nouer entre ceux qui venaient de l'extérieur et ceux qui sont des régions où nous travaillons, des liens et des formes d'intégration, d'interaction extrêmement privilégiées, je crois.
Nous avons l'impression en Haïti que les Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe, par exemple, sont beaucoup moins authentiques que nous et beaucoup plus, disons, francisées. Est-ce qu'il se dégage de vos recherches qu'il existe malgré tout aux Antilles françaises quelque chose qui ressemblerait à ce qui est resté en Haïti?
Oui, certainement, et cependant, l'impression générale que vous donnez est assez juste. Je sais que pour certains Haïtiens, c'est un suffixe péjoratif que d'ajouter Martinique à la fin d'un certain nombre de mots. Au moins, c'est ce que j'ai pu entendre parfois. Mais on peut dire que la couche sociale un peu ambiguë, qui est mi-européenne, mi-africaine, si vous voulez, qui en Haïti ne représente qu'une zone de transition entre la masse de la population et l'élite, représente là-bas la majorité de la population. Et que les problèmes d'ambiguïté, d'identité, de quête de soi-même sont généralisés là-bas, touchent l'immense majorité de la population. La quasi-totalité de la population est scolarisée, on circule partout, la radio, la télévision sont pratiquement dans toutes les cases, si bien que les modèles extérieurs envahissent le monde intérieur de chacun. Alors, ce qui est authentique, c'est-à-dire en fait ce qui procède par transmission de père en fils depuis longtemps, est comme refoulé par ce qui est externe, par ce qui est envahi, par ce que les médias divers peuvent transporter. Mais si l'on examine le monde refoulé, on s'aperçoit que, comme tout ce qui est refoulé, ça vit sous une pression terrible là-bas, et que ça se traduit d'ailleurs souvent par des véritables explosions de violence politique, explosion de violence verbale chez les intellectuels. Et je crois qu'une partie du travail que nous faisons avec eux, c'est justement de restaurer cette authenticité sans éliminer non plus les changements qui sont porteurs d'amélioration matérielle, par exemple.
Il y a donc, si je comprends bien, un souci qui n'a jamais été éliminé aux Antilles françaises, de faire sortir ce qui a été refoulé, c'est-à-dire cette recherche d'identité. Et votre centre de recherche joue là un rôle presque thérapeutique.
C'est beaucoup dire, parce que je ne sais pas si les chercheurs peuvent être tellement efficaces là-dedans, et en tout cas s'ils peuvent l'être autant que les écrivains, par exemple. Et je crois que lorsque Glissant a forgé, je crois que c'est de lui, ce mot d'antillanité qu'il a proposé aux jeunes Antillais, comme un contrepoids à la fois aux excès de l'européanité et de la négritude, il a sans doute fait beaucoup plus que s'il avait fait de longues études. Mais nous, ce que nous faisons, c'est essayer de poser quelques jalons pour qu'on connaisse ce qui existe. Par exemple, vous avez parlé des plantations. Révéler par une analyse assez systématique la structure de la société, montrer où sont les pouvoirs réels, qui contrôle réellement la vie politique, la vie économique, comment s'organise ce contrôle, comment s'organise à l'intérieur de ces différentes formes de pouvoir la vie des paysans, la vie de ceux qui sont amenés à émigrer, comment ils apprennent à se voir eux-mêmes, à s'accepter ou à se refuser. Alors tout ça, nos études peuvent le montrer, certaines de nos publications essayent de le faire. Mais un rôle thérapeutique, je crois que ça voudrait dire qu'on a affaire à des sociétés malades, c'est pas tout à fait le mot. En fait, on est à des sociétés qui sont en cours de transformation, et ces transformations sont toujours douloureuses, parce qu'on est toujours pris entre un passé qu'on regrette et puis un avenir qu'on espère meilleur, mais qui n'est pas celui qu'on a. Alors, je crois que notre rôle n'est plus simple, il est simplement de cartographier un peu la vie sociale, dire ici il y a ceci, ici il y a cela, mais c'est aux hommes d'action ou aux écrivains de faire véritablement ce que vous appelez la thérapeutique.
À ce niveau se posent pour vous, Jean-Benoît, deux problèmes, ou plutôt deux questions qui m'inquiètent. Vous avez dit un avenir, mais cet avenir n'est pas un pour les Antilles françaises. Je m'explique, il y a plusieurs options actuellement qui s'offrent aux Antilles françaises. Vous le savez, vous vous en rendez compte, ces options sont peut-être débattues, publiquement ou secrètement, par les Antillais eux-mêmes, et en leur révélant leur identité ou une partie de leur authenticité, ne jouez-vous pas le rôle d'un apprenti sorcier, ethnologue français ?
C'est très possible, cela. Mais, ou alors il faut jouer aucun rôle, ou alors il faut prendre ce risque. On peut toujours se taire, ou au contraire adopter les masques qui sont les plus courants et jouer la comédie. Mais si on essaye de faire une recherche en sciences humaines, on arrive toujours à enlever aux acteurs sociaux leurs masques pour déceler leur vrai visage. Et à partir de ce moment-là, il faut changer le contenu de la pièce, c'est évident. Mais c'est un risque, seulement ce risque, il fait partie de la démarche humaine en général. Je crois qu'on ne peut pas l'éviter, je ne vois pas comment.
En d'autres termes, toute recherche en sciences humaines aboutit à un risque calculé.
Au fond, finalement, elle est toujours porteuse de contestations potentielles. Car toutes les affirmations qui permettent aux hommes de maintenir stable un ordre social, où les petits admirent les gros, où les gros aiment bien les petits en les méprisant, tout cela se fait à partir d'une répétition de ces affirmations. Si on fait une analyse de la société, une analyse des forces sociales qui sont en cause, si l'on voit que les gros sont en fait ceux qui drainent le travail des petits et que les petits ne les respectent que parce qu'on leur a appris ce respect et on leur a masqué leur exploitation, à ce moment-là, évidemment, mais si l'on révèle cela, nécessairement, ça fait porter des changements. Les gens croient qu'ils ont affaire à un destin, et un jour, ils s'aperçoivent que ce n'est pas un destin inéluctable. Ils s'aperçoivent qu'ils ont affaire à une domination, à une exploitation, et ils n'acceptent plus. On accepte un destin, on n'accepte pas une défaite.
Deuxième problème qui se pose à l'ethnologue, c'est celui du racisme. J'emploie un mot facile, mais vous comprendrez tout de suite qu'il y a à l'intérieur de ce mot toutes les possibilités. Vous parlez d'oppression, vous parlez de domination, mais le racisme est une de ces formes. En révélant cette identité ou cette authenticité, on joue aussi le rôle de celui qui lutte contre un certain racisme. Nous avons assisté, au cours des années précédentes, sur le chemin de cette lutte anti-raciste, sous-entendez contre un certain racisme blanc, à l'éclosion d'un autre racisme. N'est-ce pas ? Croyez-vous que ces recherches ethnologiques ne pourraient pas éviter ce second racisme ?
Idéalement, oui. En pratique, jusqu'à maintenant, non. Car il faut voir ce que sont devenues les recherches ethnologiques dans certains pays qui ont eu récemment leur indépendance et qui se sont littéralement qui ont retourné ce qui les blessait pour blesser les autres et non pas pour le détruire, tout simplement. Alors, je crois que c'est une lutte au long cours où on doit lutter effectivement contre le racisme de tous les côtés. Et la meilleure façon de lutter contre le racisme n'est peut-être pas de l'attaquer comme un monstre abstrait, mais il y a racisme. Dès qu'un homme, quand il entre en relation avec un autre homme, n'est pas en relation avec un autre individu, mais avec le représentant d'un autre groupe. Lorsque je m'adresse à vous, c'est vous personnellement. Si je m'adressais à vous en tant que un, ceci, ceci, cela, peu importe la catégorie que je vous attribue, je suis déjà dans une situation préalable au racisme. Au racisme ou à toutes les autres formes de d'aliénation, si vous voulez. Et je crois que ce qu'il faut, c'est arriver à apprendre aux gens, et on l'apprend par la pratique, mais on l'apprend aussi par l'expression de ce que sont ceux qui sont en face de nous, apprendre aux gens à se rencontrer un par un, et savoir que les groupes ne sont que des catégories transitoires, statistiques, si j'ose dire.
Dernière question, je l'espère du moins. Vous travaillez à l'intérieur d'un cadre, l'Université de Montréal, donc un cadre qui a ses méthodes de travail et sa langue, le français. Francophonie, d'ailleurs nous sommes dans un colloque, participant à un colloque sur la francophonie. Qu'en est-il de cette langue française dans le cadre de vos recherches aux Antilles? Y a-t-il une possibilité pour elle, ou plutôt pour ses recherches, de révéler son côté contraignant ou oppressif?
Là, c'est plutôt le problème du rapport du français avec d'autres pratiques linguistiques. Là où le français est seul en cause, la question ne se pose pratiquement pas. Dans les Antilles, le français se trouve dans un face-à-face avec le créole. Et ce face-à-face peut être un face-à-face contraignant, il peut être un face-à-face, au contraire, de partage des rôles sans contrainte. En pratique, dans les Antilles françaises, il y a actuellement une pression extrêmement forte au niveau de l'éducation pour le remplacement du créole par le français. La réaction dans la population est au fond triple. Dans les couches populaires, le créole est la langue de la pratique courante et quotidienne. Les enfants vont à l'école en français, l'apprennent plus ou moins, après leur scolarisation, l'oublient et rentrent dans un milieu créole. Les relations du créole et du français sont des relations d'ignorance presque, de dos à dos. Ça pénalise les enfants quant à la scolarisation, mais comme de toute façon ensuite ils vont faire un travail d'ouvrier agricole où ils ne liront pas, ils sont peu blessés par la situation. À l'étage au-dessus, si j'ose dire, dans une classe sociale en ascension, à ce moment-là, les gens intériorisent très fort, acceptent très fortement une infériorité du créole, puisque le créole, c'est ce qui les empêche de monter. À ce moment-là, on assiste aux parents qui empêchent les enfants de parler créole, à une dévalorisation systématique de tout ce qui se dit et se fait en créole, tant que les gens ne maîtrisent pas profondément le français et font tous les efforts pour le maîtriser. Puis alors, il y a une autre couche, qui est les gens qui, généralement, maîtrisent parfaitement le français, qui atteignent les sommets de la société au point de vue économique, les étudiants, etc. Maîtrisant parfaitement le français, ils sentent qu'ils ont perdu quelque chose, ils perdent le créole, et ils rappellent le créole. Et c'est chez eux que se place actuellement la lutte entre le français et le créole. Et souvent, ça se traduit par un conflit entre ces étudiants et ceux qui sont socialement au-dessous d'eux et qui leur disent « Oui, au fond, vous, vous avez les deux et vous voulez éviter que nous, on ait vraiment le français. » Le français qui, à cause de la situation sociale et de la situation politique, et peut-être même des rapports internationaux, reste la langue du progrès économique.
Et voilà posé, une fois de plus, la question des rapports qui reste le même d'une Antille à l'autre, entre le français et le créole. Mais bien sûr, votre centre de recherche a effectué des travaux sur la question.
Il y a eu le travail que fait Gilles Lefebvre et quelques-uns de ses étudiants. Vous savez qu'ils ont publié le dictionnaire de Jules Fesnes. Nous avons aussi eu plusieurs travaux sur les conditions de choix du français ou du créole, selon le type de discours, le type d'interlocuteur, sur la sociolinguistique du français et du créole à la Martinique. Et cela montre le statut objectivement défavorisé du créole dans les relations sociales et son statut favorisé dans la vie privée. Ensuite, au-delà de cela, il y a des jugements de valeur. On peut choisir de prôner le créole, on peut choisir de prôner le français, on peut choisir leur coexistence. Là, c'est des choix politiques, ça n'est plus des choix scientifiques.
Mais il arrive une chose curieuse avec ce centre de recherche Caraïbes à l'intérieur de l'Université de Montréal, c'est que, au Québec, la langue française a connu une vie assez agitée. Et voilà que cette langue française, qui au Québec a connu des rapports de dominé-dominant avec l'anglais historiquement, se retrouve aux Antilles dans des rapports inverses. Qu'en pensez-vous, monsieur l'ethnologue ?
Je veux dire que la question est embarrassante, mais nous travaillons à autre chose. Quand nous travaillons à autre chose qu'à la langue, nous utilisons la langue, et puis on écrit, on publie, on discute. Lorsqu'on est avec des gens qui discutent en créole, on discute en créole. Lorsqu'on est avec des gens qui discutent en français, on discute en français. Et à ce moment-là, le problème propre de la langue ne concerne l'ethnologue que de façon marginale, dans la plupart des situations, j'entends. Quant à l'analyse propre de la sociolinguistique créole, il y a effectivement un phénomène assez amusant, c'est que le français a, au Québec, la situation qu'a le créole aux Antilles. Et que celui qui vit le français comme une langue forte, mondiale, sûre d'elle-même, dominatrice et sûre d'elle-même, aux Antilles, le vit comme la langue infériorisée, celle où, d'ailleurs, mes étudiants me le disent souvent, ils me disent « Oh, publier en français, vous savez, ça fait pas sérieux. On ne peut pas s'exprimer en français. On ne peut pas tout dire en français. Il faut écrire en anglais quand on veut faire un travail scientifique. Il n'y a pas de mots français qui permettent d'exprimer le travail scientifique. » Et ça revient quotidiennement. Le même langage que celui que va vous dire en créole dans le sens inverse. Ce qui montre combien la valeur d'une langue ne tient pas seulement, et même tient minoritairement, à sa structure interne, mais tient beaucoup à sa position dans la société. Et que employer une langue, c'est aussi s'accrocher à une petite étiquette pour dire « je fais partie des grands » ou « je fais partie des petits ».
Ah, bien sûr. Et ceux qui vous entendent en Haïti vont immédiatement faire la corrélation. Pour finir, dites-nous, quel est l'avenir de cette ethnologie dont vous êtes un représentant et un chercheur? Est-ce que vraiment dans le monde de demain, il y aura place pour de vraies identités épanouies et maîtresses d'elles-mêmes, maîtresses de leur avenir?
Je le crois sincèrement, mais cela implique qu'on quitte peut-être le terme et l'option d'ethnologie pour avoir un certain nombre de civilisations qui à la fois se connaissent et s'étudient d'elles-mêmes et s'échangent Je prenais l'exemple tout à l'heure de la civilisation espagnole, par exemple. Il existe en France des centres d'études espagnoles ou en Allemagne des centres d'études françaises. Je crois que le jour où il y aurait des centres d'études antillaises ou d'études créoles ailleurs, qui seraient placés sur le même plan, le monde antillais serait vécu par l'extérieur et du coup par lui-même, parce qu'on se regarde beaucoup à travers le regard des autres, comme un monde à part entière, ce qu'il n'est pas encore, je crois, tout en aspirant à l'être. En Haïti, il l'est plus qu'ailleurs, mais dans les Antilles françaises, il n'est certainement pas. Quant à un optimisme mondial, moi, je suis incapable de vous répondre.
Merci.